Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro. Je vous parle en ce 15 mai. Alors que voilà, on a déjà une première équipe qui a accédé au carré d'as. Les Oilers d'Edmonton qui sont de retour en demi-finale en finale d'association de la Coupe Stanley en éliminant les Golden Knights de Vegas hier soir. Donc, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission. On va faire le tour de tout ce qui se passe en séries éliminatoires avec mes deux collègues. Premièrement, on le rejoint. Écoute, il était sur la scène du crime hier de l'assassinat des Golden Knights. Jean-François Chaumont, en direct de Vegas. Ça va bien, GF?
Ça va très bien. Et vous, messieurs?
Ça va très bien. Et l'autre, on le rejoint. Il sort tout juste de l'entraînement des Panthers de la Floride en ce jeudi matin. Lui, écoute, il n'y a pas eu d'assassinat, mais ça commence rapidement à sentir le salon funéraire à Toronto où on le rejoint. Salut Guillaume.
Salut les gars. Je te dirais que je pensais que tu t'adressais à moi quand tu parlais de scène de crime.
Ben écoute, on est dans la même thématique ce matin parce que, écoute, il y a une des deux équipes qui a plus chèrement vendu sa peau hier et c'est malheureusement pas celle qui est encore en vie avec la performance des Maple Leafs. On va y revenir dans quelques minutes. Donc aujourd'hui à l'émission avec Guillaume, Guillaume Lepage de LNH.com, GF Chaumont, les deux mes collègues à LNH.com. On va faire le tour des quatre séries. On va surtout parler des deux que vous couvrez les gars parce que vous êtes sur place donc c'est encore plus intéressant. Donc on va parler de ça à l'émission. Ça va être pas mal ça. On va peut-être juste rapidement aussi faire un petit tour. Écoute, c'est la valse des entraîneurs qui se poursuit dans la LNH. Donc, on va peut-être rapidement faire d'émission. On va juste en glisser un mot parce qu'on va avoir un balado aujourd'hui rapide. GF, il faut que tu ailles prendre ton avion. D'ailleurs, je pense pas qu'avec cette coupe de cheveux-là, il te laisse passer aux douanes. Mais ça, c'est une autre histoire.
écoutez, il est 7h37 en ce moment à Vegas. Puis simplement, vous rappeler qu'il y a eu de la prolongation hier. Faut écrire aussi. Puis en série, ce qu'il y a de fun avec les disponibilités médias, c'est que ça ne se termine jamais.
Ah, c'est fou, hein?
Le dernier joueur te parle environ une heure après le match. C'était Kasperi Kapanen et Darnell Nurse de mon côté. Puis honnêtement, quand Kasperi Kapanen marque un but gagnant en prolongation, un joueur de l'ombre, t'as pas le choix de lui parler non plus. Donc, t'as pas le choix d'attendre l'arrivée du bon Kasperi dans la salle de presse de Vegas.
Donc, comme vous voyez, ben, les gars sont sur la route. Donc, les balados, ces temps-ci, on les fait quand on a le temps, entre deux voyages d'avion. Donc, suivez-nous, abonnez-vous sur plateforme d'écoute où vous nous écoutez. On est disponible sur à peu près toutes les plateformes possibles. Faites une recherche, la tasse de café. LNH, vous allez nous trouver. Et comme je dis, suivez-nous pour prochain balado. Ensuite, bon, on devrait avoir un balado entre la deuxième ronde et les finales d'association. Donc, dimanche, lundi, tout dépendant quand est-ce que ça va se terminer. On y va, les gars. On va commencer du côté de Edmonton. Edmonton de Vegas. Alors que ça s'est terminé hier, on va rapidement, avant que tu t'endormes sur le balado, parce que ta nuit a été courte. Ça va avoir été une série... surprenant, je pensais que les Golden Knights allaient offrir une meilleure performance, ça allait être plus long comme série. Je pense qu'on avait tout le monde choisi Vegas avant la série. Encore une fois, on dit tout le temps, faut jamais parier contre Connor McDavid et Leon Draisaitl. Mais offensivement, c'est pas nécessairement eux autres qui sont signalés chez les Oilers dans les matchs qui ont fait la différence.
Mais tout ce qu'on croyait comme étant les faiblesses chez les Oilers se sont soudainement transformées en force. On parlait du manque de profondeur des Oilers. Celui qui marque le but vainqueur, c'est Kasperi Kapanen. Dans le match numéro 4, Adam Henrik marque deux buts. Evander Kane marque également le troisième trio qui contribue largement à la victoire. Il y a Chris Knobloch qui insère Troy Stetcher dans la formation à partir du quatrième match. Stetcher donne 15 bonnes minutes à la ligne bleue en remplacement de Ty Emberson qui jouait que des grenailles de petites minutes. Puis Stuart Skinner, l'histoire à Edmonton, c'était est-ce que les Oilers peuvent gagner en série avec Stuart Skinner? Quand il a pris la relève de Calvin Pickard qui est blessé au bas du corps à partir du troisième match, donc le premier match à Edmonton, Skinner n'avait toujours pas signé de victoire pour les Oilers. Il a perdu son premier départ contre les Golden Knights. Puis après ça, il rebondit avec deux blanchissages d'affilée. Hier, Connor McDavid, après le match, Honnêtement, pour un capitaine qui venait d'accéder à la finale de l'Association de l'Ouest, McDavid avait des fusils dans les yeux. Il a rapidement dit, bien, Skinner vient de fermer la trappe à tous ceux qui pensaient qu'il n'était pas capable de gagner pour nous, qu'il n'était pas capable de rebondir. Il dit à l'intérieur du vestiaire, on a confiance en Stuart Skinner. Puis McDavid était très irrité aussi quand un collègue d'Edmonton lui a demandé ce qu'il pensait du jeu défensif, à savoir que les Oilers peuvent maintenant gagner 1-0, 2-1, etc. Puis McDavid a dit, ça fait longtemps que je vous le dis qu'on est capable de gagner des matchs à bas pointage. On vient de le faire. Et je ne sais pas combien de fois je vais devoir répondre à cette question-là. Donc, c'était un capitaine sérieux qui n'avait pas le sourire dans le visage.
J'ai regardé ça à la télé, puis honnêtement, on aurait mis les images après le match 7 de la finale l'an dernier à côté de celle d'hier soir, puis ça aurait été similaire comme attitude. Je sais pas ce qu'il voulait démontrer, du calme ou de la frustration, je sais pas, mais c'était un peu curieux comme
réaction. Ouais, mais je posais la question avec les collègues d'Edmonton qui le connaissent beaucoup mieux que moi. McDavid, là, en entrevue, ça, faut être honnête, McDavid n'est pas Sidney Crosby. C'est rarement celui qui noircit ton calepin. Mais hier, il était particulièrement de mauvaise humeur. Mon premier réflexe, c'était de me dire qu'il est tellement en mission qu'il va sourire le moment qu'il va gagner la Coupe Stanley, que pour lui, atteindre le carré d'as, c'est pas encore ce qu'il recherche. Mais l'autre hypothèse, qui est un petit peu plus dangereuse, c'est que pendant les 3 minutes d'entrevue, McDavid se tient souvent le poignet gauche. Puis, qu'est-ce qui est arrivé à Connor McDavid en première période? Il a chuté très lourdement derrière le filet de Stuart Skinner après un repli défensif pour empêcher Victor Lofsen de décocher un tir. McDavid n'a pas manqué de présence. Probablement qu'il n'est pas blessé, mais il y avait peut-être un petit bobo, comme bien des joueurs qui venaient le déranger.
Il va peut-être falloir aussi. Ben, ça va peut-être être positif d'avoir quelques jours supplémentaires.
Oui, exact. Pour plusieurs joueurs.
Rapidement. Mais on parle aussi de McDavid. C'est peut-être le Connor McDavid qui pète sa coche quand les Oilers tirent de l'arrière 3-0 l'année dernière en finale. Genre, on avait vu les images sur le documentaire. J'ai oublié le nom. En tout cas, documentaire sur la finale l'année dernière. Mais oui, c'est vrai. Puis les Oilers, regardez, c'est l'année dernière, les Oilers qui avaient terminé à peu près 4e dans la ligue comme équipe défensive. C'est une équipe qui est capable, mais qu'on doute, puis on doutait encore plus d'elle en raison de l'absence de Mathias Ekholm. Puis finalement, il y a d'autres joueurs qui se sont levés. On en parle à peine de Mathias Ekholm dans cette série-là, tellement on a réussi à bien fermer le jeu, empêcher les gros canons. Il y avait peut-être quelques joueurs maganés, là. On a parlé de Mark Stone qui n'a pas joué ce 5e match-là. Il y avait quelques éclopés du côté de Vegas, Jeff.
Oui, ça fait pas de doute. Là. Braden McNabb était blessé à une épaule ou à un coup. McNabb, on lui a parlé un matin du côté d'Edmonton, puis il marchait comme un bonhomme des sentinelles de l'air. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle quand tu es à quelques heures de jouer un match. Pietrangelo aussi ne s'entraînait plus.
T'en as perdu une coupe là, avec ta référence des sentinelles de l'air, puis les plus jeunes, là, c'est des marionnettes, voilà, là, tu marches carré.
Il n'y avait pas une chanson qu'elle avait avec ça.
C'est pas moi qui vais chanter, il est trop tôt.
Une chanson au thème me semble assez classique.
Je me trompe, je suis
l'un de ceux que JF a perdu avec sa référence. Donc,
ça sonnait une petite
cloche.
Attends, tout ça pour dire...
Les Sentinelles de l'air, 1965. Donc, on était tous très, très jeunes.
Moi aussi, je n'étais pas né, les boys. Ouais, on va se calmer.
Il y a des limites à quel point on peut te vieillir là-dessus. Là, même là toi, on a la référence, mais je me doutais que Guillaume partait de loin sur celle-là. Là. Ouais.
Mais c'est vrai que le jeu défensif des Oilers, il n'y a pas... Oui, il y a Evan Bouchard qui est un défenseur étoile, mais qui est plus offensif que défensif. Darnell Nurse, au printemps l'an dernier, avait connu un parcours très difficile, même si les Oilers avaient atteint la finale. Cette année, Nurse donne quand même du bon hockey. Il y a Brett Kulak aussi qui remplit très bien son rôle, joue plus que 25 minutes par match. Très bonne acquisition aussi, Jake Wallman. Si les Oilers ont gaffé cet été dans les dossiers de Broberg, et de Dylan Holloway avec les propositions hostiles des Blues. Il faut quand même dire que Stan Bowman et les Oilers ont réussi à se racheter. L'acquisition de Wallman est très importante. Puis défensivement, ben Knobloch, quand il sépare McDavid et Draisaitl, il confie des mandats défensifs à Draisaitl. Puis dans les deux derniers matchs contre le trio de Jack Eichel, bien Draisaitl a été très, très bon défensivement. Mais hier soir, tu regardais la formation des Golden Knights sans Mark Stone. Le premier trio, les alliés de Jack Eichel, c'était Victor Olofsson puis Brett Harden. J'ai rien contre Harden et Olofsson, mais on ne parle pas de deux alliés typiques de premier trio. Résultat, bien, les Golden Knights n'ont pas marqué dans les deux derniers matchs.
Y a-tu des joueurs qui
sont parlais, je veux juste vas-y. Ajouter, tu sais, Kasperi Kapanen, on a beaucoup parlé des offres hostiles des Blues.
Ouais, mais lui, c'est un résultat de l'offre hostile.
Exact. Là, il a été réclamé le 19 novembre par les Oilers en provenance de Saint-Louis. Donc, c'est un peu la douce revanche des Oilers. Ce que je trouvais intéressant aussi, hier, j'écoutais Bruce Cassidy qui disait, tu sais, on a adapté, en tout cas du côté des Golden Knights, on a semblé adapter notre style de jeu pour le rendre un peu plus défensif. Puis il dit, pour faire ça, on va sacrifier un peu d'attaque. Donc, tu sais, le fameux monstre à deux têtes, puis les capacités offensives des Oilers ont forcé les Golden Knights à s'adapter puis à sacrifier de l'attaque. Puis dans ce match-là, ben, une victoire de 1-0 des Oilers, ça, c'est peut-être la meilleure illustration de ce que les Oilers ont forcé les Golden Knights à faire dans cette série-là.
Oui, puis il y a un marqueur de 35 buts, Pavel Dorofeyev. Oui, il revenait d'une blessure, mais on l'a pratiquement pas vu dans cette série-là contre les Oilers. Bruce Cassidy aussi m'a fait rire aussi hier quand... collègue de Vegas lui a demandé quel a été le tournant de cette série à tes yeux. Puis je crois qu'il a identifié 6 tournants différents pour démontrer pourquoi les Golden Knights ont fini par perdre. Donc, les Oilers méritaient cette victoire-là. Ça peut paraître une surprise en 5 matchs, mais honnêtement, c'était la meilleure équipe sur la glace contre les Golden Knights.
Il y a un joueur qu'on n'a pas parlé, c'est Evander Kane. Pas joué de la saison, revient en série. Déjà là, tu vois, on dirait, je ne sais pas si enfin il est en santé, là, entre guillemets, mais tu sais, c'est un joueur qui a tellement été magané dans les dernières années quand les séries arrivaient. Là, il est peut-être, il est en train de peut-être d'être capable d'en faire un peu plus parce que justement, il n'a pas joué durant toute la saison. Il n'est peut-être pas au rythme qu'il voudrait être, mais en même temps, il est en santé ou du moins il se porte bien. Là.
Non, puis Evander Kane avec son trio, avec Adam Henrique au centre et Connor Brown. Connor Brown, c'est un autre bon petit joueur aussi en série pour les Oilers. Kane revient d'une opération à un genou, donc aucun match.
Honnêtement, il était opéré à peu près tout.
Le mot magané n'est pas assez fort. Là. Kane n'avait pas joué le premier match contre les Kings, mais il a fait son entrée au deuxième match. En 10 matchs, c'est 7 points, 4 buts, 3 passes. Il disait en conférence de presse qu'il y a probablement plus d'énergie qui peut davantage s'illustrer comparativement à l'an dernier où il y avait trop de blessures pour être un joueur dominant du côté des Oilers. Donc, puis il a aussi probablement trouvé... tu sais, les joueurs de hockey ont toujours des superstitions. Là. Evander Kane, depuis le début des séries, quand les Oilers se retrouvent sur la route, loue une voiture pour se rendre à l'aréna. Puis c'est toujours une voiture de luxe. À Los Angeles, il faut comprendre que le JW, le Ritz-Carlton, est littéralement de l'autre côté de la rue que le Staples Center. Je crois que le Staples Center a changé de nom.
Le Crypto.com Arena.
Crypto.com Arena. Mm-hmm. Et Evander Kane parcourait les 250 mètres environ avec sa voiture de location. À Vegas, peut-être que l'hôtel était à 1 km. Il faisait la même expérience, même truc, voiture de location aussi. Donc, point de vue écologique, on ne parle pas de l'idée du siècle, mais Evander Kane, cette superstition-là lui va bien depuis le début des séries.
J'ai un chum qui est comme ça aussi, lui, c'est pas par superstition, c'est juste parce qu'il est paresseux, mais ça, bon, c'est une autre affaire. Corey Perry, honnêtement, parce que là, on regarde pour la suite, Corey Perry, c'est un gars qui a une bonne croustille sur l'épaule après toutes ses échecs en quoi? C'est année après année après année, échec en finale. Là, il est rendu 4 fois. Une chance qu'il a gagné une fois, Perry. Mais son apport dans cette série-là, son expérience, son style de jeu, est-ce qu'on peut le mettre dans les intangibles pour la suite des choses?
Non, il n'y a pas de doute. Puis Corey Perry, c'est un meneur pour les Oilers. Dans le match numéro 3, c'est lui qui marque les deux premiers buts. Patine parfois avec Connor McDavid, mais dernièrement, plus souvent au sein de...
lentement.
Non, patine très lentement. Ça, il est le premier à le dire. Puis il riait en disant, mais écoute, la bonne nouvelle en jouant parfois avec McDavid et Draisaitl, c'est que j'ai de l'air plus rapide tellement que les deux autres le son, surtout McDavid.
Je pensais que tu as dit que c'est parce qu'il est dans le jeu, parce que le jeu était de revenir avant qu'il se rende à la vitesse.
Non, mais tu sais, il fait son boulot. Il reste le Corey Perry fatigant. Il s'installe devant le filet. Il n'a pas changé d'une seule miette. Dans les échauffements, c'est toujours drôle de le voir. Il attend toujours à la fin de la période d'échauffement. Là, comme un enfant de 8 ans. Là. Il prend sa petite rondelle, s'avance, la dégage, la regarde qui s'en va vers le filet. La pointe, rentre au banc en courant. Puis dans les derniers matchs, il a frappé deux fois le poteau à Edmonton. Puis hier à Vegas, il a manqué à cible. Ça n'y arrive pas souvent, mais ça n'a pas empêché les Oilers d'en gagner 2-3. Puis peu importe à qui tu parles dans le vestiaire, les Oilers, ils vont identifier Perry comme un morceau très important du noyau de l'équipe. Il a 39 ans, souhaite encore jouer la saison prochaine. C'est vraiment un gars pour qui le hockey prend une énorme place dans sa vie.
Puis tu sais, je parlais d'intangible, c'est on n'est pas dans un effet Raymond Bourque avec l'Avalanche, tu sais, à l'époque où on voulait vraiment donner. Mais est-ce que tous ces échecs-là récemment, oui, il a gagné la Coupe cette année, mais as-tu l'impression que ce club-là joue en partie pour lui donner cette deuxième coupe-là, ou on n'est pas là?
Ben, je pense que cette équipe-là joue en partie pour eux aussi. Ouais. Connor McDavid n'a jamais gagné. Leon Draisaitl n'a jamais gagné. Je comprends le sens de la question.
Ouais, ouais.
Oui, ils vont vouloir pousser pour un vétéran comme Perry, qui en a perdu 4 d'affilée avec des équipes différentes, avec le Canadien, les Stars, le Lightning. Il me semble qu'il m'en manque une, Canadien, Stars, Lightning.
Deux fois les Oilers.
Ben, les Oilers, hier.
Yeah. Oh, les Oilers. Les Oilers, les Oilers en dernier. Exact, les Oilers. Donc, oui, c'est un... C'est une réalité qu'ils veulent gagner pour Perry. Mais tu sais, je parlais aussi avec Brett Kulak cette semaine. Je vais d'ailleurs écrire dans les prochaines heures au sujet du bon Brett. Puis Brett, il disait que ce match-là, perdre un septième match, une finale de la Coupe Stanley, c'est pas juste perdre une finale. Perdre un septième match, ça fait encore plus mal. Il dit que ce sentiment-là reste présent. Il dit qu'il n'y a pratiquement pas une journée qu'il ne revoit pas les images après la rencontre où ils sont assis dans le vestiaire en Floride, à Sunrise, à l'autre bout du monde. Puis, Kulak disait que ça peut servir d'essence, de carburant, qu'ils veulent y retourner, puis ils veulent finalement obtenir un premier titre dans l'ère McDavid-Draisaitl.
Est-ce que ce qu'on a vu des Oilers dans cette série-là, dans la première ronde aussi, mis à part les deux premiers matchs, là, le retour en force de Skinner, le retour possible d'Ekholm, est-ce que ça change votre opinion à moyen long terme des Oilers? Alors, comme je disais, je pense qu'on avait tous choisi Vegas.
Non, moi, j'arrête de faire les prédictions là, parce que j'avais aussi choisi les Kings. Mais oui, ça peut changer des perceptions. Le retour au jeu d'Ekholm, par contre, restons prudents. Ekholm a recommencé à patiner en solitaire. Ne patine toujours pas avec ses coéquipiers. Donc, on n'est pas... C'est pas immédiat, disons, un retour au jeu pour Mathias Ekholm. Au prochain tour, en finale de l'Ouest, je veux pas placer la charrue devant les bœufs, mais il y a de grandes chances que ce soit les Stars de Dallas. Au moment qu'on se parle, les Stars mènent 3-1 contre les Jets. Les Stars forment aussi toute une machine de hockey. Donc, le clash risque d'être important en finale de l'Ouest. Mais les Oilers ont tellement bien joué contre les Golden Knights que c'est possible pour cette équipe-là d'aspirer à une conquête.
Moi, je suis un peu du même avis. Moi, c'est les Stars. Je pense que j'irais quand même avec les Stars, mais c'est certain que c'est rassurant de voir les Oilers jouer de cette façon-là. Tu parles du retour de Skinner. Ça a toujours été des hauts et des bas avec ce gardien-là. Ouais. Donc, je pense pas qu'on peut dire au prochain tour, il va continuer sur sa séquence de jeu blanc. T'sais, il va sûrement connaître des difficultés à un point ou à un autre parce que ça a été le résumé de sa carrière jusqu'à maintenant. Mais De voir cette équipe-là être capable de gagner toutes sortes de matchs, ben ça rappelle un peu ce qu'on a vu l'an dernier. Donc, ça en dit long quand même sur leur capacité à faire un bon bout de chemin puis à peut-être se retrouver en finale une fois de plus.
Bon, pendant qu'on jubile à Toronto, Edmonton, plutôt, on panique à Toronto. La panique est installée du côté de Toronto. Tu peux en témoigner, Guillaume. C'était hier le match, un match où on se devait de réagir du côté des Maple Leafs. C'était une performance gênante. Personne s'en est caché du côté de Toronto, mais est-ce qu'on était capable d'expliquer pour comment comment on a pu livrer un match aussi dégueulasse? Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Je voudrais bien qu'on peut y aller dans la finesse et dire une performance difficile, mais réellement, c'est une performance dégueulasse dans une défaite de 6-1 où on a marqué un but en toute fin de match. Mais tu sais, on n'a jamais été en contrôle de ce match-là du côté de Toronto. Est-ce qu'on avait moindrement des réponses dans le vestiaire des Torontoyens?
La réponse brève, c'est non. Il y a eu plusieurs... la question revenait à tous les joueurs qui ont défilé devant nous, les membres du fameux noyau. Austin Matthews, Mitch Marner, William Nylander, il y a Chris Tanev aussi qui a parlé aux médias après le match. Puis les mêmes questions revenaient parce que c'est un peu le modus operandi quand une équipe se fait lessiver de cette façon-là. Là, une défaite de 6-1, on répète pas mal les mêmes questions pour avoir des points de vue différents de chaque joueur.
Juste avoir une réponse point. Là, ça.
Non, c'est ça. Les mêmes questions revenaient souvent. Puis la réponse qui revenait aussi souvent, c'était je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas trop d'explications à ce qui s'est passé ce soir. On cherchait un peu des réponses. L'entraîneur-chef Craig Berube, lui, a pointé vers la première période de son équipe. Là. Ça a été une période complètement à l'avantage des Panthers. On a étouffé les Maple Leafs dans leur territoire avec la pression constante en échec avant. Les seules chances des Leafs, il y en a eu des chances de marquer en première période, mais c'est survenu sur la contre-attaque, sur des jeux brisés à la ligne bleue. Puis là, on a réussi à amener la rondelle de l'autre côté de la patinoire, mais c'est rien passé vraiment du côté des Maple Leafs dans cette période-là. On retraite quand même au vestiaire avec un match d'un but. Là. Les Panthers ont marqué un seul but dans cette période-là, même si ils ont doublé les Leafs au chapitre des tirs au but. Puis en deuxième, on commence de meilleure façon, on touche le poteau, on encaisse le deuxième but et à partir de ce moment-là, c'est comme si les Maple Leafs avaient plié bagage pour le match numéro 6. On s'est complètement écoulé. Tu sais, je pense que au-delà du fait que bon, c'est une défaite de 6-1. On n'a jamais vraiment été dans le coup, mais c'est vraiment la réponse à partir du moment où tu donnes le deuxième but. Tu es devant tes partisans. C'est un match ultra important pour la suite de la série. Puis tu t'écrases de cette façon-là. Je pense que c'est plus cet écroulement-là qui fait mal du côté de Toronto parce qu'il n'y a pas eu vraiment de tentative de réponse. On n'a pas tenté de s'impliquer davantage physiquement ou de répondre à ce que les Panthers nous donnaient. On a vraiment subi. Puis tu sais, Berube disait, d'un, on ne peut pas commencer le match de cette façon-là. Ça a donné le ton pour le reste. Puis il dit, après ça, on est resté là, debout comme des piquets, puis on les a regardés faire. Tu sais, ça a été un peu le résumé de ce qui s'est passé à partir de la deuxième période. Donc, ça va être, j'ai l'impression que ça va être assez dur de se relever de cette défaite-là. Quoique, il y en a beaucoup qui disent qu'en série, il n'y a pas de momentum. Disons qu'on peut en douter aujourd'hui.
Ben, surtout Toronto, là.
Oui,
exactement. Surtout une équipe qui a du déjà vu, là, en matière de. C'est un film qui se répète, là. Donc le momentum, il est inévitablement négatif, là. JF, t'allais dire?
Moi, je me demande si le cliché, c'est que tu dois apprendre à perdre avant de gagner. Mais cette équipe-là a peut-être trop perdu dans les dernières années, ce noyau-là. Puis de l'extérieur, j'ai pas couvert la série comme Guillaume, mais on dirait que la cicatrice est trop présente, trop grande pour les Austin Matthews, Mitch Marner.
Elle vient tout à se réouvrir. Les points de suture n'ont jamais refermé
ouais,
ça.
Puis,
là, ouais.
Et puis même les partisans qui attendent de célébrer une première victoire de la Coupe depuis 67, il y a une grande impatience, il y a une nervosité à l'intérieur de cet édifice-là. Puis dans une chronique, Maxime Talbot disait « T'as beau, les Maple Leafs sont beau répéter qu'ils n'y pensent pas aux défaites du passé. » Il dit « C'est impossible. » Il dit là, c'est le même noyau depuis trop longtemps qui perd. Donc la nervosité, est-ce que la nervosité s'installe puis ça commence à les gruger? T'sais? Faut pas oublier que cette équipe-là menait 3-1 dans le troisième match. Il était pas loin d'obtenir une avance de 3-0 contre les Panthers.
Un but en prolongation, puis t'as les devants 3-0 contre les champions. Puis là, tu te retrouves à tirer de l'arrière 3-2 une semaine plus tard. C'est quand même spectaculaire. Mais la foule, honnêtement, je comprends que les billets sont chers. le spectacle ne valait pas le prix d'entrée hier, puis les Maple Leafs savaient pas, ont pas démontré de volonté d'améliorer les choses vraiment pendant ce match-là. Mais de voir à 4-0 ou à 3-0 même la foule applaudir sarcastiquement Joseph Woll qui a eu deux gros départs en Floride pour essayer de donner une chance à son équipe de gagner un match là-bas, revient à la maison, se fait un peu niaiser par la foule. Après ça, on encaisse le cinquième but, le chandail sur la patinoire, le bon vieux classique du printemps à Toronto. Les gens avec 13 minutes à faire qui montent les marches, qui se retournent à la maison. Tu sais, c'est 3-2, c'est pas un match d'élimination. Là. Ça se peut qu'il y ait un match 7 dans 4 jours. Là. Moi, ça m'a donné l'impression que l'équipe a eu l'air d'abandonner sur la glace. Puis les partisans se sont dit « Bon, c'est encore une autre année. »
Ça commence.
Hein. C'est comme si tout le monde arrêtait d'y croire.
Ben exact.
Les partisans, les joueurs.
Le niveau de patience est tellement à zéro que là, il se passe une mauvaise soirée comme hier, puis c'est la fin du monde. Puis tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont rangé leur chandail dans leur garde-robe jusqu'à l'automne prochain pour le début de la prochaine saison. Alors que
s'ils l'ont pas fait brûler, ben j'ai vu certaines vidéos, les
ouais,
gens
y a ça,
brûler des choses comme du calme.
Il y a ça aussi. Non, mais ce qui est
encourageant,
intense ce qui se passe ici, puis même moi, je me suis fait prendre au jeu après deux matchs. Puis, tu sais, il faut dire qu'on avait quand même raison de le souligner. Tu sais, les Maple Leafs avaient répliqué coup pour coup aux Panthers, avaient démontré du caractère en venant de l'arrière, en marquant des buts importants tout de suite après ça des Panthers. Puis, on avait l'impression que la mentalité peut-être avait évolué. Tu sais, que sous Craig Berube, il y avait quelque chose de différent. Puis, on était rendu peut-être à l'étape où on pouvait gagner sans se soucier de ce qui s'est passé dans les années dernières. Mais là, deux défaites. Puis, on est de retour avec le même refrain, le même disque qui saute. Tu sais, tantôt, on prend l'avion à 5 heures. Je pense qu'on a surnommé ce vol-là le shuttle des médias là, qui s'en va en Floride parce qu'à peu près tous les journalistes qui couvrent la série sont sur ce vol-là. Puis j'ai l'impression, l'image que j'ai, c'est comme une famille qui s'en va enterrer une personne mourante en Floride. Là.
C'est le cortège. Le cortège, t'en rends toi. Ouais.
C'est les dernières heures de cette équipe-là. Puis on prend l'avion pour aller voir cette équipe-là se faire battre en Floride parce que contre n'importe quelle autre équipe, tu peux te dire « Bon, on peut changer la donne puis espérer forcer un match 7. » Mais là, tu fais face au champion de la Coupe Stanley qui, depuis la moitié du troisième match, ont retrouvé leur air d'aller, ont retrouvé leur façon de jouer qui leur a permis de gagner la Coupe l'an passé. Donc, c'est une très, 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 très lourde commande pour les Maple Leafs en Floride. Ouais.
Craig Berube a besoin d'être un magicien dans les prochaines heures pour réussir à faire renaître cette équipe-là. Si jamais il devait gagner le match 6, match 7. Écoute, les Leafs pourraient peut-être partir sur une incroyable lancée, mais j'en doute. Puis ce que j'aime aussi, tu regardes les deux derniers matchs, tu as le bon Max Domi qui veut préparer la prochaine rencontre en Floride, mise en échec inutile dans le dos à Alexander Barkov. Dans le cinquième match, en fin de rencontre, Domi écope de ses 86e et 87e punitions inutiles depuis le début des séries. Ben, à un moment donné, t'sais, on parlait des Oilers qui ont de la profondeur, des joueurs qui jouent intelligemment dans des rôles de troisième trio. Ben, à un moment donné, ta profondeur, Berube a fait quelques changements au dernier match, mais peut-être que de montrer le chemin de la passerelle de presse à Max Domi va représenter une solution aussi pour les Maple Leafs.
Puis hier, Berube n'a pas fermé la porte à ce scénario-là parce que oui, il y a eu les choses en fin de match. Mais après le troisième but des Panthers, si je ne me trompe pas, ou le quatrième, mais je pense que c'était le troisième. Ouais, c'était après le troisième but. Max Domi, à la mise au jeu, se met à picosser Matthew Tkachuk. Et là, tout le monde dans l'amphithéâtre sait qu'il est sur le point, les fils sont sur le point de se toucher. La rondelle tombe. Je pense 15 secondes après, un gros slash sur l'avant-bras de Matthew Tkachuk, écope d'une punition. Puis là, ton équipe vient de manger le troisième but. Tu t'en vas donner un avantage numérique aux Panthers. C'était écrit dans le ciel. On était sur la galerie de presse, puis on s'est tous dit Max Domi est sur le point de faire quelque chose de stupide. Et 12 secondes plus tard, c'était fait. Donc, puis Craig Berube a dit regarde, on va se parler, puis on va évaluer où on en est avec ça, puis quelle décision on va prendre pour le sixième match. Parce que Domi est incapable de contrôler ses émotions. Et ça, ça dure depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale. De l'autre côté, tu as des Sam Bennett, tu as des Brad Marchand qui sont des spécialistes pour jouer sur la ligne, entrer dans la tête d'un Domi. Tu as un Matthew Tkachuk aussi qui est bon là-dedans. Il est tout simplement pas à la hauteur de ce que les Panthers offrent. Puis tu as raison, Jeff, de parler de la profondeur. Depuis le début de la série, Max Domi et Nick Robertson, qui a joué son premier match de la série hier, sont les seuls qui ont marqué un but dans cette série-là sur les deux derniers trios des Maple Leafs. Tandis que du côté des Panthers, on est rendu à 17 buteurs différents depuis le début de ce parcours éliminatoire. Hier, il y en a 4 des 6 buts qui ont été marqués par des joueurs qui n'avaient pas touché la cible depuis le début des séries. Fait que, la guerre de la profondeur, les Panthers sont en train de la gagner aussi. Puis, sont en train de gagner la guerre sur pas mal de plans, je te dirais.
Et est-ce que ce qui nourrit encore plus la frustration des partisans, c'est parce que aussi les gros noms. Je vais mettre Domi dans la liste, pas parce que c'est un grand nom, mais c'est un nom connu, très populaire à Toronto. Lui, hier, Mitch Marner qui a fait une superbe gaffe sur le troisième but des Panthers. Austin Matthews, peut-être pas à 100% là, Matthews, là, mais qui marque pas. C'est ce noyau-là de joueurs qui sont là depuis quelques années, qui prennent de la place partout dans les médias, qui là sont pas capables de se lever. Alors qu'on approche le marché des joueurs autonomes cette année, où on a un Mitch Marner qui peut devenir joueur autonome, on a John Tavares qui peut devenir joueur autonome, ça pourrait partir dans tous les sens, puis que ce noyau-là se fasse ébranler, soit peut-être dépecé un peu. Est-ce que justement ça, encore plus, ça vient jouer dans la tête des joueurs qui se disent peut-être c'est notre dernière fois, et des partisans qui font comme « Hey, là, ça va faire, c'est la dernière fois. »
Mm-hmm. Ben écoute, hier après le match, un match numéro 5, la saison n'est pas terminée, Mitch Marner se fait demander « Est-ce que il y a eu une pensée pendant le match que ça pouvait être ton dernier match à Toronto dans l'uniforme des Maple Leafs? » C'est un contexte qui est très, très compliqué, disons. C'est certain que ça affecte les joueurs, ça affecte le noyau. Austin Matthews, 2 buts dans ces séries-là. Cole Caulfield, qui joue au golf depuis le 31 mai, a encore un but de plus qu'Austin Matthews. Hier, quand même, c'est 6 tirs au but, Austin Matthews. C'est un effort louable compte tenu du contexte, mais parvient pas à marquer. Puis, tu sais, je veux dire, on le paye pour marquer des buts à Toronto, puis ça se produit pas. Puis, c'est 3 buts à ses 21 derniers matchs de série, donc il est peut-être pas à 100% dans ce parcours-là. Puis, tu sais, il est ennuyé au cours de la saison, mais je veux dire, c'est une tendance qui s'observe depuis plusieurs années dans les séries. Ce sont des joueurs qui sont pas vraiment capables de livrer la marchandise. Puis je voyais une stat aussi par rapport à Mitch Marner. Les matchs numéro 5 à 7, c'est un joueur qui s'efface au fur et à mesure que les séries progressent. Il connaît des bons matchs 1 à 4, peut récolter des points ici et là, mais quand les choses se corsent, quand le moment devient plus important, bien, on voit un joueur qui s'efface. Puis, je veux dire, ton équipe est bâtie autour de ces joueurs-là. Donc, inévitablement, bien, ça se reflète sur les résultats collectifs de l'équipe. Puis, moi, hier, Austin Matthews, je sais pas, on dirait, étant donné la couverture qu'on a fait cette année à Montréal, les standards assez élevés, je m'attendais à un capitaine frustré, des déclarations quand même, tu sais, c'est inacceptable d'offrir ça, puis c'est présenté devant les médias, puis j'ai trouvé que c'était un joueur complètement passif, pas frustré, pas de panique, pas, tu sais, je sais pas s'il essayait de démontrer du calme, mais
ce qui n'est pas une mauvaise stratégie devant les médias torontois, là, soyons francs.
Non, mais tu sais, démontrer que tu as un pouls aussi, mm-hmm. ça pourrait aussi aider, du moins de la perspective des partisans, parce que je pense pas qu'il y ait une personne qui est sortie du Scotiabank Arena puis du fameux rassemblement à l'extérieur avec le sourire aux lèvres. Là. Donc, je sais pas si tu peux au moins montrer qu'au sein de l'équipe aussi, il y a de la frustration, puis on trouve pas ça acceptable de jouer de cette façon-là, ben peut-être que tu reconnectes un peu plus avec tes partisans, mais hier, c'était vraiment là, les clichés. Là, le miroir, flusher ça aux toilettes, faut être meilleur, blablabla. On a entendu tout ça mais on n'a pas vraiment entendu de joueurs qui ont pris le blâme sur leurs épaules puis qui ont dit « Garde, j'ai été mauvais, l'équipe a été mauvaise, on ne peut pas jouer de cette façon-là en série. » Puis ça, ça n'a pas vraiment été dit à part par l'entraîneur-chef Craig Berube. Donc, faut regarder du côté du noyau, c'est certain.
Connor McDavid avait l'air. J'allais dire Connor McDavid avait l'air plus frustré que McDavid que Matthews.
Ouais, honnêtement, oui.
Marner. Mais Guillaume, tu dis, tu parles de blâme. Il y a aussi la gestion du dossier Mitch Marner. Quand tu as un joueur étoile, la trempe d'un Marner, Brad Treliving aurait peut-être eu besoin de tout faire pour s'entendre avec lui plus rapidement. C'est rarement une bonne nouvelle quand tu as une grande étoile qui est sur le point de devenir un joueur autonome sans compensation. Garder Mikko Rantanen avec l'Avalanche du Colorado, mais ils ont fini par l'échanger en cours de saison. Ça n'a pas donné le résultat espéré, cette transaction-là. Ils ont eu Martin Nekatch en retour. Mais est-ce que Marner va vouloir poursuivre l'aventure à Toronto? T'sais, on dirait qu'il n'y a jamais un été endormant du côté des Maple Leafs. Il y a toujours quelque chose. L'an dernier, c'était le départ de Sheldon Keefe, l'arrivée de Craig Berube. Il y a 2 ans, c'était le congédiement, 2-3 ans, le congédiement de Kyle Dubas. Donc, il va peut-être falloir aussi regarder ton noyau. Est-ce que c'est un des membres du noyau qui va finir par partir? Ça pourrait être Marner, ça pourrait être Tabarez. Ils n'ont pas de contrat à la fin de l'année. Mais ça reste de grosses, grosses histoires à surveiller dans les prochaines semaines.
Ah, puis de la manière dont Marner répond aux questions et tout ça, il me semble pas être un joueur qui est très, très attaché à Toronto puis qui a envie là, à 110% de poursuivre l'aventure puis de rester sur le feu des critiques. Là. Il me semble être un joueur qui est prêt à passer peut-être à une autre étape, mais là, bon, on parle de ça. Il y a un match numéro 6.
Ben, c'est ça,
on spécule, exact. Les Leafs peuvent revenir.
Peut-être qu'on se reparle dimanche puis que les Maple Leafs sont en finale de l'Est. Donc, on va se garder un peu de jus pour le prochain podcast.
Non, oui, c'est ça. Mais j'allais dire, ce sixième match-là, c'est quoi la clé pour les Maple Leafs? Bon, peut-être que la présence d'Anthony Stallers aurait changé quelque chose dans cette série-là, mais tu sais, Wall n'a pas été affreux. Hier, tout le monde l'a été. Il a fait partie de cette gang-là. Mais est-ce qu'on est capable de faire changer le vent alors qu'on s'en va en Floride contre une équipe aussi expérimentée puis tout ça? Et on est en train... Oui, tu l'as dit, Guillaume, là, peut-être que tu peux changer, mais on dirait que le trou est creusé. Là. Un trou de 6 pieds, là, mais il y a déjà 3 pieds de creusé. Là.
Ouais, je sais pas c'est quoi les clés. Je lisais les commentaires de Craig Berube ce matin. Il disait, tu sais, hier, on a trop pensé au lieu de jouer au hockey. C'est peut-être le signe d'une équipe qui justement se retrouve trop dans sa tête à ce moment-ci de la série.
C'est pas le temps de penser dans la série, là, c'est le temps d'exécuter. Là.
Exact. Puis surtout contre les Panthers, t'as pas le temps de penser. Là. Tu comptes un bateau, puis t'as un joueur sur le dos, puis il faut que t'aies fait ta passe pour sortir la rondelle. Fait que je sais pas c'est quoi la clé. Anthony Stallers, Berube disait qu'il représente un cas douteux. C'est même pas s'il va faire le voyage en Floride. Donc, ce serait très surprenant de le voir en uniforme demain soir. Là. Je voyais qu'il a pris quelques lancers des joueurs en extra ce matin, mais c'est pas une solution miracle non plus, Anthony Stallers. Si les Leafs jouent de la même façon qu'hier devant lui, c'est à peu près le même résultat. Là. T'sais, Wall a été faible sur le 4e but, mais généralement, je pense pas que ce sont de mauvais buts, une mauvaise sortie de sa part. Il était tout simplement dans le même état d'esprit que ses coéquipiers en 3e période, dans un avantage numérique, sort de son filet pour aller arrêter la rondelle avant qu'elle traverse la ligne rouge. La laisse là, confusion. Il y a un joueur des Panthers qui arrive pas à la rondelle. T'sais, c'était vraiment. Il était déconnecté complètement, les joueurs des Maple Leafs. Hier, ça a été de A à Z. Là, ça n'a pas fonctionné.
Et je lisais un texte, je me souviens plus, c'est qui. C'est-tu Mike Zeisberger qui l'a écrit sur le site web de lanache.com. Mais bon, expliquait ce qu'on fait de différent, c'est que Wall est vraiment pas bon autour de son filet. Lorsque c'est le temps de sortir de son filet, Stallers est meilleur. Donc lorsqu'on dégage la rondelle pour aller s'installer en zone chez les Panthers. Stallers était capable d'arrêter la rondelle puis tout de suite de participer à la relance. Ce que Wall n'est pas capable de faire. Donc, les Panthers en profitent encore plus. On dégage la rondelle, on rime la puck, comme on dit en bon français. Puis Wall est pas capable de gérer ça, pas capable de couper les 10 en arrière du filet, ce qui fait qu'on peut vraiment venir s'installer encore plus facilement là, chez les Panthers. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Donc Wall, au-delà des arrêts, c'est ce qui n'est pas capable d'amener qui vient faire mal aussi aux Maple Leafs.
Puis contre une équipe comme les Panthers, la petite seconde ou deux que tu gagnes, si ton gardien arrête la rondelle derrière le filet, plutôt que d'essayer de la décoller du bord de la bande puis de te mettre en bonne position pour effectuer une bonne passe, ben c'est peut-être la différence qui leur permet d'appliquer de la pression puis d'être premier sur la rondelle tout le temps. Tu sais, aux Quatre Nations, Jordan Binnington, on riait un peu de ça, mais John Cooper revenait toujours avec le fait que son jeu autour du filet est un atout pour l'équipe. Puis, on pense pas souvent à ça, là, mais dans une série qui est aussi serrée, que le niveau de jeu est aussi élevé, ben ce sont des petits détails comme ça qui permettent de faire la différence entre deux équipes. Donc, c'est certain que de ce point de vue-là, je pense que la perte de Stallers a fait mal. Mais au niveau du rendement devant le filet, ben c'est Bobrovsky a complètement pris l'ascendant sur ses vis-à-vis dans la série. Tu sais, depuis le deuxième match où il avait accordé 9 buts là, dans les deux premiers matchs, ben vraiment, vraiment intraitable. Hier, à 0-0, il y a des échappées de William Nylander. Si les Leafs marquent le premier but, on n'a pas la même discussion aujourd'hui. Puis si les Leafs font 1-1 après le premier but des Panthers, on n'a peut-être pas la même discussion. Donc, quand ça casse du côté des Panthers, quand ça flanche défensivement, ben Bobrovsky est à son meilleur en ce moment. Puis ça c'est un autre aspect où la différence est assez flagrante.
Oui, on a beau parler de Joseph Woll, les gars, mais dans les deux derniers matchs, les Leafs ont marqué un but. Puis c'est un but inutile en fin de rencontre quand ils perdaient 6-0 de Nicholas Robertson. Donc, que ce soit Woll, que ce soit Stolarz, tu as besoin de marquer quelques buts en série.
Donc, le constat semble clair pour nous trois par rapport à ce qu'on s'attend pour le sixième match. Mais bon, on verra bien, comme tu as dit, Guillaume. Ça va peut-être, on va peut-être se reparler dimanche ou lundi, tout dépendant. Si ça va à 7, c'est dimanche le match, j'en déduis.
Ouais. Je pense que si on veut savoir si cette équipe-là est différente sous Craig Berube, le gros test est demain soir en Floride.
T'auras pas de meilleure situation pour le juger. Série Dallas-Winnipeg, les gars, on en a parlé rapidement de Mikko Rantanen tantôt, mais est-ce qu'on a déjà le M et le O de son nom inscrit, commencer à être gravé sur le trophée Conn Smythe? On n'ira pas aussi loin que ça parce qu'on pourrait quand même encore avoir droit à une finale Edmonton Floride, ce que vous adoriez, messieurs, revivre ça cette année avec le voyagement impossible entre les deux villes. Mais Mikko Rantanen, en matière de gars qui prend sa revanche, tu sais, qui se promène là, avec une crotte sur le cœur, puis il veut prouver à tout le monde que l'Avalanche avait tort de pas lui faire confiance et prouver à tout le monde que les Stars ont eu raison de lui offrir ce gros contrat-là dès son arrivée. Quel impact dans cette série-là? C'est lui d'un côté, c'est Connor Hellebuyck de l'autre côté. C'est ce qui résume entièrement cette série-là.
Ben, c'était quel impact aussi face à l'Avalanche du Colorado. Dans les derniers matchs, c'est Rantanen qui transportait l'attaque des Stars sur ses épaules. Écoute, c'est 19 points en 11 matchs. Est-ce qu'il est le joueur le plus utile à son équipe? Au moment où on se parle, oui. Mais il ne faut jamais laisser McDavid et Draisaitl trop loin de l'équation. Mais les Stars aussi, tu sais, là, tu as Miro Iskanen qui recommence à jouer, qui est revenu au dernier match. Jason Robertson, j'ai le sentiment qu'il n'a pas encore réellement pris son envol.
Si la série peut se terminer rapidement, Robertson, quelques jours,
ça va permettre de guérir des bobos. Mikael Granlund donne du bon hockey aux Stars, le trio des Finlandais, là, Rantanen, Granlund et Rupe Hintz. T'as Wyatt Johnson qui est toujours bon en série. C'est une équipe qui est très, très, très complète. On a souligné la profondeur des Oilers, celle des Stars aussi, elle peut faire peur. Rantanen, c'est un joueur en mission. On dirait qu'il veut démontrer à l'Avalanche qu'il méritait ce contrat-là. Il a déjà signé une prolongation de contrat avec les Stars. Il ne faut pas oublier que l'autre équipe aussi pour qui il a joué, les Hurricanes à Caroline, reste également dans le portrait. Donc, peut-être qu'Aaron Tanen pourrait croiser une autre de ses anciennes équipes en grande finale de la Coupe Stanley.
Penses-tu qu'il va y avoir une vidéo hommage ou ça risque d'attendre un peu?
J'ai joué combien de matchs avec la Caroline?
Je pense que c'est une douzaine à peu près. Si
jamais tombé. Il n'a pas eu le temps de tomber en amour avec Raleigh, disons. Ça a été assez rapide.
13 matchs, 2 buts, 4 passes.
Puis ça n'avait pas bien été, en plus. C'est que ça ne le fait pas, là.
Dans les 13 matchs, il y en avait joué un contre le CH à Montréal. Puis son non-verbal, quand venait le temps de parler des Hurricanes, voulait tout dire. Mais je pense que c'est le type de joueur qui ne cadrerait pas non plus avec la philosophie de Rod Brenamo. Ça peut paraître une surprise, mais Rantanen, c'était pas un bon mariage avec les Hurricanes. Mais au moins, du côté des Hurricanes, ils ont compris ça rapidement. Puis ils ont bougé pour pas tout perdre dans cette transaction-là.
Oui, Stankoven fait quand même du bon boulot pour les Hurricanes. On en reparlera un petit peu plus tantôt. Connor et le Buck, là, on fait quoi là, chez les Stars? Parce que là, c'est catastrophique, surtout à l'étranger. Écoutez,
chez les Jets.
J'ai dit quoi? J'ai dit
chez les Stars.
Les Stars. Ouais, non. Ben, on fait quoi chez les Stars? Ben. On lance de partout. Je veux dire, ça rentre de partout. Écoutez, les stats de le box, c'est à l'extérieur, c'est dramatiquement catastrophique. C'est 5 défaites. C'est un pourcentage d'arrêt de 793. 5,84 de la moyenne de buts accordés. Et depuis le début des séries éliminatoires, pas juste dans cette ronde-là, mais depuis le début des séries éliminatoires, le box, bon dernier dans les stats avancées pour le nombre de buts donnés par rapport à ce qui est attendu, mais pas un peu dernier, là. 10,4 buts donnés de plus que ce à quoi on s'attendait. Juste pour vous dire, Adam Hill est le deuxième pire dans cette catégorie-là. Il est à 4,2. Puis après ça, on tombe plus là, dans les 2,7. T'sais, Stuart Skinner, là, on a beaucoup parlé des performances de Stuart Skinner en séries éliminatoires. Il est à 2,2. Là. Moins 2,2, c'est-à-dire a donné trop, 2 buts de trop. Là. Mais Hellebuck, mais là, tu fais quoi si t'es Scott Arniel? Peux-tu vraiment te laisser de côté un gardien qui va gagner le Vezina pour une deuxième année de fil, mais en même temps, c'est un gardien qui s'écrase dans ses éliminatoires pour une deuxième année de suite aussi? T'es les Jets, tu fais quoi?
T'as pas vraiment le choix d'y aller avec le gardien qui t'a mené là. Parce que justement, la situation à Winnipeg fait en sorte qu'il y a un numéro 1 très clair qui a eu la majorité des départs cette année. Si tu es dans une autre équipe, là, je regarde la situation à Toronto, on a partagé le travail, Wall ou Stolarz, je veux dire, c'est pas tant un débat, mais là, Eric Comrie ou Connor Hellebuyck, c'est quand même une bonne coche là, je veux dire, en termes de ce à quoi tu peux t'attendre de chacun des gardiens, mais comme tu le dis, en série, ben il y en a un qui livre pas la marchandise, puis l'autre, c'est un peu de l'inconnu. T'as le dos au mur, est-ce que tu y vas vraiment? Tu prends-tu de la chance? Parce que, tu sais, je veux dire, t'as une relation aussi à préserver avec Hellebuyck. Si tu le retires du filet dans un match où ta saison est en jeu, ben là, ça veut dire quoi pour la suite des choses? C'est-tu un désaveu envers lui? Comment tu gères ça? Moi, j'ai l'impression que tu y vas avec Hellebuyck jusqu'à la toute fin, puis après ça, ben on fera le bilan de ce qui s'est passé, puis on en tirera de certains constats par rapport à son rendement en série. L'autre mauvaise nouvelle pour lui, c'est que les Jeux olympiques n'ont pas lieu à Winnipeg. Donc, il va falloir qu'il apprenne à jouer sur une autre patinoire parce que...
Pas le même relief à Winnipeg puis Milan Cortina d'Ampezzo. C'est pas tout à fait le même relief, là.
Pour lui, j'ai l'impression que ce qui est encore pire, c'est de jouer de cette façon-là devant Jake Oettinger, qui est l'autre candidat pour le poste de partant pour les États-Unis aux prochains Jeux olympiques. T'sais, tout ça mis ensemble fait en sorte que ça crée peut-être un tourbillon pour lui qui est dur à gérer. Là, je regardais son point de presse après le dernier match, puis c'était pas un gars qui transpirait la confiance puis qui avait l'air de dire que ça allait bien aller puis qu'il allait rebondir. Là, il était vraiment, vraiment abattu. J'en parlais avec Renaud Lavoie qui est ici puis il dit honnêtement, je pensais qu'il allait se mettre à pleurer pendant le point de presse. Là, c'est un gars qui mentalement, probablement, est très, très affecté en ce moment. Peut-être une autre raison qui pourrait ouvrir la porte à ce qu'Arnell dise « Ben regarde, on va essayer Comrie parce que t'es brisé mentalement en ce moment-là. » Mais je vois mal comment tu peux gérer ça à long terme avec ton gardien numéro 1, de lui dire, regarde, tu vas regarder le match, un match en lendemain du bout du banc comme ça. Là.
C'est, moi, je pense que les Jets, Guillaume, ils ont pas le choix. Là. Tu vis ou tu meurs avec Connor Hellebuyck. Ouais. Bon. C'est ton joueur. C'est pas juste ton gardien numéro 1. C'est le joueur franchise des Jets de Winnipeg. Il en est à sa première année d'un contrat de 7 ans, je crois, sa prolongation de contrat.
Oui, c'est ça, tu as raison. Ouais.
Donc, 8,5 millions. Il reste, après cette année, il va rester 6 autres saisons. Tu peux simplement prier pour que Connor Hellebuyck redevienne Connor Hellebuyck. La bonne nouvelle à court terme, c'est que le match 5 a lieu à Winnipeg. Il est meilleur à Winnipeg que sur la route. Écoute, ça va s'en venir. Tantôt, on parlait de cicatrices des Maple Leafs. Est-ce que Hellebuyck a les mêmes cicatrices en série et que ça lui joue dans la tête? C'est difficile de comprendre pourquoi il est aussi bon pendant une saison de 82 matchs. Puis quand arrive le printemps, les séries, on voit un gardien différent. C'est pas l'équipe non plus qui se métamorphose de A à Z devant lui. Donc, c'est quelque chose qui m'échappe, le rendement de Hellebuyck au printemps.
Moi, je pense que c'est un désaveu de la façon qu'on l'utilise en saison, c'est-à-dire de lui faire trop, année après année, terminer premier pour le nombre de matchs joués, lui faire jouer un vendredi soir perdu contre les Ducks d'Anaheim, alors qu'on pourrait le laisser et donner plus de départ à tous ceux qui ont passé. Là c'est Comrie cette année, puis avant ça, c'était Laurent Brossoit, puis nommez-les. C'est le temps de prendre ce gardien-là et de lui donner moins de 60 départs. Parce que je veux dire, il y en a vu là, du hockey, là, si on remonte depuis, depuis 2019-2020, il y a 356 matchs joués. Le plus près après ça, c'est Vasilevski à 332, puis ensuite défiler ça. Il y a tellement
de hockey. C'est 4 saisons consécutives d'au moins 60 matchs.
Exactement.
C'est du hockey.
Et je vois pas, peut-être que, comme tu as dit, JF, ce soir, au cinquième match, ils vont peut-être rebondir. Ça reste une bonne équipe, les Jets. Mais les Stars ont tellement de profondeur. Le retour de Miro Heiskanen en plus. Pour moi, cette série-là, elle est terminée. Est-ce que ça sera en 5, en 6? Peut-être en 7, mais je vois juste pas. À moins que soudainement, Hellebuyck redevient Hellebuyck puis va voler 3 matchs. Mais là, on est loin, puis pas à peu près de ce scénario-là. Dernière série, Washington-Caroline. Bon, on savait que ça allait être difficile pour les Capitals. Je pense qu'on avait tous choisi la Caroline. Et là, on voit un peu là, les petites failles, le manque d'expérience, la qualité du jeu défensif des Hurricanes qui ressort. C'est en train de faire mal là, aux Capitals, qui vont peut-être avoir manqué un petit peu d'enjeu. C'était beau, hein, cette saison-là, avec Alex Ovechkin et tout ça. Mais là, Ovechkin, présentement, a de la misère à produire. Ça a peut-être été une trop grosse saison un peu pour les Capitals. Comment je dirais? C'est une équipe de saison, puis peut-être moins une équipe de série dans la manière de jouer.
Ouais, puis les Hurricanes dominent aussi largement la colonne des tirs tentés. Donc, contrôle la rondelle. C'est une autre équipe aussi qui mise sur plusieurs bons trios. Le Andrei Svechnikov qui est en feu depuis le début des séries. Frédéric Anderson aussi n'a pas encore visité l'infirmerie au deuxième tour. Donc ça, pour les Hurricanes, c'est un soulagement.
Je serais curieux de voir, j'avais la discussion avec un de nos collègues cette semaine, puis je disais, si Anderson avait été en santé toute sa carrière, là, quand tu regardes ses statistiques, bon, il a joué à Toronto, là, il n'y aurait pas de coupe cette année, là, mais quand
même. Il a toujours joué pour une bonne équipe.
C'est ça, il a joué pour des bonnes équipes, mais ce gars-là serait peut-être pas très loin d'une candidature au Temple de la Renommée ou peu importe, mais les blessures ont tout à fait. Ça, il va avoir perdu beaucoup d'argent. Là, il vient de signer un nouveau contrat, Anderson, là, pour quelques grenailles de plus. Il payait le prix d'un adjoint. Fait que c'est quand même, tu sais, je pense que ça vient avec le fait qu'on sait qu'il sera pas là pour 30 matchs. Là. Mais quand même, je veux dire, le talent de Frédéric Anderson, c'est un peu, on parlait tantôt d'intangible. Si Anderson est en santé toutes les séries éliminatoires, les Hurricanes, là, ça peut aller loin. Là. Mais tu disais, ouais, on poursuivait sur le nombre de tirs. L'échec avant aussi des Hurricanes, hein. Ça force les Capitals à réagir de manière rapide. Puis on n'est pas nécessairement capable de s'installer. C'est le fun quand on peut nourrir Ovechkin, quand on peut placer nos pions en zone offensive. Mais on n'a pas le temps de se rendre en zone offensive. Puis deux, de le faire lorsqu'on est rendu pas très loin du filet d'Anderson.
Puis le noyau dur des Hurricanes, ils ont quand même de l'expérience des séries. Là, ils n'ont pas encore atteint la finale de la Coupe Stanley, mais des carrés d'as, souvent au deuxième tour. Donc, c'est une équipe qui, depuis le début de cette série-là, domine les Caps. Encore une fois, ce n'est pas terminé. 3-1 pour les Hurricanes, mais disons que Raleigh en finale de l'Est reste une très forte probabilité.
Puis il y a aussi chez les Capitals, c'est une équipe, il y a des jeunes, tu sais, des jeunes à des postes clés. Connor McMichael, pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires. Mm-hmm. Alexis Protas, pas beaucoup d'expérience non plus. Tu sais, je regardais, là, tu compares là, j'ai oublié son nom, Dylan Strome. Bon, Dylan Strome, là, ouais. Rendu à 28 ans, c'est un vétéran, là, Dylan Strome. Il a 22 matchs d'expérience en séries éliminatoires. Anthony Beauvillier, il est un an plus jeune. 64 matchs d'expérience. Pourtant, quand tu compares l'apport qu'un Strome est sur un premier trio, ce qu'il doit faire, c'est pas beaucoup d'expérience. C'est pareil pour McMichael. T'sais, on le sent là, chez les Capitals qu'il manque ce style de hockey de série-là. T'as un Logan Thompson qui fait son mieux, mais ça devrait se finir ce soir, selon vous, là.
Ouais, tu sais, c'est vraiment la différence entre une équipe qui est rendue au stade de gagner, qui a eu des échecs en série, contre une équipe qui est allée sur d'une reconstruction rapide ou une réinitialisation. Tu sais, ça a donné des bons résultats en série, mais tu peux pas fabriquer l'expérience puis le caractère peut-être que ça prend pour connaître un long parcours en série. T'sais, cette équipe-là des Capitals doit passer par les mêmes étapes que toutes les équipes traversent quand vient le temps d'apprendre à gagner. Donc, je pense que c'est là qu'on voit la grosse différence dans cette série-là. Puis, je pense que j'avais dit Caroline en 5. Fait que je vais poursuivre avec cette prédiction-là. J'ai l'impression que le défi est simplement trop grand pour les Capitals.
On va pouvoir revenir sur la série lors du prochain balado. En terminant, messieurs, hier, vague d'annonces au niveau des entraîneurs-chefs. Rick Tocchet chez les Flyers, c'est confirmé. Qui va le remplacer chez les Canucks? Adam Foote, l'ancien des Nordiques et de l'Avalanche, qui, lui, entre dans le carrousel, hein, parce qu'il n'a jamais été entraîneur-chef par rapport à ceux qui ont été nommés. Joel Quenneville fait son retour dans la Ligue nationale de hockey, va aller diriger les Ducks. Mike Sullivan aussi, ça date un petit peu, là, mais avec les Rangers. C'est pas encore terminé. Il y a des équipes qui n'ont pas encore choisi leur entraîneur. Tu sais, les Bruins, les Blackhawks qui ont des entraîneurs par intérim. Le Kraken de Seattle aussi, c'est pas décidé. Quand on regarde les quatre que j'ai nommés, lequel, à votre avis, va avoir le plus gros impact sur sa nouvelle équipe? Puis les Ducks, les Flyers, les Canucks, les Rangers, combien sont en séries éliminatoires l'année prochaine avec ce nouveau pilote?
Bonne question. Les Canucks, je crois plus ou moins aux Canucks. Je pense que Adam Foote s'en va dans la gueule du loup. Puis le fait aussi qu'il n'a jamais été entraîneur-chef, c'est peut-être une illustration qu'il y avait. C'était un marché moins intéressant pour les gros noms. Rick Tocchet va gagner plus d'argent qu'il n'a jamais gagné quand il jouait. 5,5 millions, je crois, selon Pierre Lebrun. 5,5 pour les 5 prochaines saisons avec les Flyers. C'est une équipe, par contre, qui reste en reconstruction. Je crois que la patience va être de mise. Je ne vois pas les Flyers en série l'an prochain. Sullivan est probablement celui
c'est la réponse
qui
facile.
Peut... Oui, c'est celui qui peut le plus changer son équipe. Puis écoute, Greg Cronin ou Joel Quenneville, bien, les Ducks sont quand même un noyau intéressant de jeunes joueurs. C'est une équipe qui, techniquement, doit plus partir vers le haut que vers le bas. Donc, on verra pour Quenneville.
J'ai hâte de voir ce que les Ducks vont être capables de faire parce que, oui, il y a plusieurs jeunes, mais tu sais, noyau, beaucoup d'inconstance, beaucoup de...
Ouais,
de
est-ce que tu veux construire aussi avec Trevor Zegras? Il y a quelques joueurs, quelques éléments qui sont un peu attrayants.
Ben, tu sais, ça va dépendre aussi. T'sais, un Leo Carson va en être où l'année prochaine? Ils ont plusieurs jeunes. Jackson Lacombe, Cutter Gauthier aussi. Jackson Lacombe, on ne l'avait pas sur... Notre radar est en train de devenir le défenseur numéro un de cette équipe-là. Mason McTavish. Il y en a qui parlent déjà d'offre hostile pour Mason McTavish comme deuxième centre des Canadiens. Pas mal sûr, peu importe le niveau de l'offre, là, ça va être matché, ça va être égalé. Les
Canadiens vont avoir beaucoup de deuxième centre l'an prochain. Si on,
ça va plus
on regarde
voir.
Toutes les rumeurs. Là.
Même qu'il y a des collègues hier qui disaient là, Mitch Marner s'en va à Montréal là, l'an prochain, t'es mieux de te préparer à ça. Puis là, j'ai répliqué que d'après moi, le plan des Canadiens, c'est de mettre la main sur un joueur qui est capable de jouer en série et d'offrir un rendement intéressant. Fait que je pense pas qu'avec ce que. Ben quoi que, tu sais, faut pas
regarder
ce qu'il fait. C'est un joueur quand même productif, mais quand les. quand l'enjeu est grand et que les matchs comptent, on dirait qu'il y a un petit peu de difficulté.
Il lui reste deux matchs pour prouver aux Canadiens qu'il aurait raison de lui faire confiance.
Ouais, mais là, s'il y a des collègues qui associaient le nom de Marner, probablement pour t'agacer, Guillaume, là, mais Jeff Gorton, dans son bilan, sa conférence de presse, il a dit qu'il y a plusieurs équipes aussi qui sont construites avec des alliés de 90, 100 points, des alliés qui réussissent à mener l'équipe offensivement. Mm-hmm. Peut-être qu'il faisait allusion à Ivan Demidov qui est dans sa propre cour, mais il y en a d'autres qui devaient se dire « Ah, mais c'est peut-être un signe qui pourrait avoir un intérêt pour Mitch Marner. » Mais attendons. Si Marner n'aime pas la folie torontoise, je ne suis pas convaincu qu'il aimerait plus le cirque montréalais.
Non, ça, non, je ne penserais pas. Je pense pas que s'il décide de quitter Toronto, ce ne sera pas pour un autre gros marché comme Montréal.
D'un bout à l'autre, de la 401, de la 20, peu importe, là, c'est... Si t'aimes pas la pression médiatique, t'es mieux de t'en aller vers les petites routes.
Le sud. Coins.
Le sud aussi. Ouais. Les impôts sont plus bas aussi, ça peut être plus intéressant. Mais ça, de toute façon, ça changerait pas grand-chose pour nous trois, vu notre salaire qui rentre pas dans les braquettes où c'est vraiment, vraiment intéressant. Allez, gars, merci d'avoir été là. Je vous laisse, JF, tu t'en vas prendre ton avion pour décoller pour...
Oui, je vais aller me peigner aussi. Je rentre à la maison. Donc, je vais peut-être manger un croissant parce que vous ne l'avez pas vu, mais en début d'émission, Guillaume mangeait un croissant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, je me dis que je commence à avoir faim. Là. Il est 8h36 chez moi. Je rentre à la maison. On se reparle dimanche, lundi.
Dimanche, lundi, oui, exactement. Puis Guillaume, toi, on va te suivre vu que tu t'en vas du côté de la Floride. On va pouvoir lire tout ça.
Ouais, sur le cortège funéraire des médias torontois.
C'est à savoir. On va renommer l'avion des Maple Leafs, c'est le Corbillard à ce moment-là. Puis, ça va être facile. Ça sera pas difficile à faire vos titres d'articles, probablement, avec tout ça. Mais justement, on va pouvoir lire tes textes sur LNH.com. Donc, chers auditeurs, suivez-nous, suivez nos réseaux sociaux, suivez le site LNH.com pour tout ce qui suit. Comme je dis, on a nos deux collègues qui sont sur... qui sont votre lien francophone pour suivre le déroulement des séries éliminatoires. Merci encore, messieurs, d'avoir été là aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.